Alors, on m'a gentiment proposé d'introduire notre conférencier. Je ne sais pas s'il faut le présenter, le père François-Marie Lettel, donc carme de la province de Paris, là, je le dis au passage, mais qui est donc habituellement à Rome, où il enseigne la théologie. Vous le connaissez beaucoup, beaucoup d'entre vous le connaissent, puisque donc il intervient souvent ici. Et puis, je crois pouvoir dire aussi que, enfin, une des choses qui te motive beaucoup, c'est ton travail à la congrégation pour la cause des saints. Tes nombreux clients, comme tu aimes dire. Voilà. Voilà, je ne crois pas que c'est utile de dire autre chose pour donc introduire cette conférence. Donc, l'interprétation réaliste des évangiles dans la communion vivante avec Jésus.
Merci, cher frère Guillaume. C'est mon père provincial. Pour cette présentation-ci fraternelle. Et alors, pour dire aussi le lien aussi du père Marie-Eugène avec la province de Paris, j'ai entre les mains un exemplaire de « Je veux voir Dieu » historique. C'est celui qui... il appartient à la province, mais je l'ai emprunté. Donc, au couvent d'Avon. C'est l'exemplaire dédicacé par le père Marie-Eugène au père Élisée de la Nativité. Donc, je n'ai pas connu le père Marie-Eugène, mais j'ai très bien connu le père Élisée de la Nativité, qui me parlait souvent du père Marie-Eugène, parce que le père Élisée était provincial de Paris. Ils avaient beaucoup travaillé ensemble pour les fédérations des carmélites, et aussi, donc, dans des moments difficiles et importants. Et donc, le père Élisée, et alors, vous voyez, donc, le lien aussi entre nos deux provinces. Et donc, pour moi, c'est aussi une très grande joie de toujours de venir ici, cette année. Donc, c'est le 50e anniversaire de la mort du père Marie-Eugène, mais c'est aussi le 50e anniversaire de mon entrée au Carmel, puisque je suis rentré. Je n'ai pas eu le bonheur de le connaître sur la terre, mais ensuite, donc, j'avais déjà lu « Je veux voir Dieu » avant, donc j'avais 18 ans. C'était un des livres de ma chère maman. Donc, j'avais déjà lu « Je veux voir Dieu » que j'avais beaucoup aimé. Et ensuite, j'ai eu la grande grâce de connaître l'Institut Notre-Dame de Vie. Donc, je ne pourrais jamais assez dire tout ce que j'ai reçu ici. Bon, j'ai essayé de donner un peu, mais j'ai tellement, tellement reçu. Et donc, vous voyez, vraiment pour moi, c'est ça l'appartenance au Carmel, à l'Ordre des Carmes, ma chère province de Paris, le service à Rome, mais aussi ce lien spirituel avec l'Institut, c'est quelque chose de tellement beau et de tellement important. Donc j'ai pris comme thème, j'ai choisi ce thème, l'interprétation réaliste des évangiles dans la communion vivante avec Jésus. Le bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus est un grand témoin de l'interprétation réaliste des évangiles dans la communion vivante avec Jésus, cette communion dont témoignent tous les saints dans le cœur de l'Église, cœur brûlant d'amour, toujours intimement uni au cœur de Jésus dans l'Esprit Saint. Les saints anciens et modernes, de Saint-Irénée de Lyon à Sainte-Thérèse de Lisieux, sont les témoins privilégiés de cette communion intime de l'Église avec Jésus dans la totalité de son mystère divin et humain, dans tous les mystères de son humanité que nous révèlent nos quatre évangiles, depuis le premier instant de son incarnation dans le sein de la Vierge Marie, jusqu'à sa mort, sa résurrection et son ascension. Par les sacrements, par la foi, l'espérance et la charité, l'Esprit Saint donne à notre Église en pèlerinage d'être toujours contemporaine de ces mystères de la vie de Jésus, accomplis une fois pour toutes il y a 2000 ans. Et alors, tout au long de l'année liturgique, l'Église vit l'aujourd'hui de l'incarnation, de la naissance de Jésus, de son baptême, de sa transfiguration, de son agonie, de sa passion et de sa résurrection. Alors, pour comprendre ce que signifie cette interprétation réaliste des évangiles dans la communion avec Jésus, il convient de rappeler la célèbre expression de saint Thomas d'Aquin, « Actus credentis non terminatur ad enunciabile sed ad rem ». En effet, je traduis en expliquant. Cet acte du croyant, il ne dit pas l'acte de foi, l'acte du croyant, actus credentis, qui est inséparablement acte de foi, d'espérance et d'amour, n'a pas pour terme ultime le texte, même le texte sacré, mais la réalité elle-même qui est le mystère de Jésus, la personne de Jésus. Et le père Marie-Eugène exprime cela de façon magnifique dans « Je veux voir Dieu », dans le chapitre 5 de la deuxième partie concernant les lectures spirituelles. Je vous ai donné une feuille avec ce schéma qu'il faut toujours avoir sous les yeux dès qu'on lit quelque texte que ce soit du père Marie Eugène. Donc le chapitre 5 de la deuxième partie concernant les lectures spirituelles, qui est admirable, donc en mettant à la première place le Christ, livre vivant, et ensuite, en deuxième place, en relation avec lui, l'Écriture sainte, interprétée par l'Église. Donc c'est toujours Jésus comme livre vivant qui est révélé dans toute la Bible, commenté dans l'Église, donc le Christ vérité dans les livres dogmatiques, le Christ voix dans les divers spirituels, le Christ vie dans le témoignage des saints. Ce sont les titres, les sous-titres du père Marie Eugène dans ce chapitre. Ce thème du Christ livre vivant est central dans l'enseignement des deux premières femmes docteurs de l'Église, Thérèse d'Avila et Catherine de Sienne. Le père Marie Eugène aimait répéter que la foi touche Dieu. Il s'agit de la foi vivante animée par la charité et l'espérance. Elle touche Dieu en Jésus-Christ, dans son vrai corps qui nous est donné dans l'Eucharistie, et dans sa parole qui nous est donnée dans toute la Bible et centralement dans les quatre évangiles. Toutes les paroles de Jésus, tous les événements de sa vie, depuis le premier instant de l'incarnation, en sa vie cachée à Nazareth, en sa vie publique, en sa passion et sa résurrection, tout ce qui nous est révélé dans l'évangile nous donne accès à la réalité de sa personne et de son mystère. Chacun d'entre nous peut dire, comme saint Jean de la Croix, « Dieu est à moi et pour moi parce que le Christ est à moi et tout entier pour moi. » Ou encore avec Charles Péguy, « Jésus nous appartient tout entier. » Cette interprétation réaliste des évangiles et de toute l'Écriture dans la communion vivante avec Jésus est l'âme de toute la théologie du père Marie Eugène, telle qu'elle est synthétisée dans « Je veux voir Dieu » et déployée dans tous ses enseignements. On peut parler, et ça, j'ai très très heureux, j'ai beaucoup appris aujourd'hui, d'un fondamental tissu biblique et évangélique de toute sa théologie, qui est d'une extraordinaire actualité. Donc vous voyez pas seulement les citations explicites, mais il y a un tissu biblique continuel. Parler Bible, penser Bible, écrire Bible. Oui. Dans l'immense espace de la communion des saints, le bienheureux Marie Eugène est particulièrement lié aux trois docteurs du Carmel, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix et Thérèse de Lisieux. Il est spécialement proche de la petite Thérèse, désignée de façon prophétique par lui comme docteur de la vie mystique et par saint Pie X comme la plus grande sainte des temps modernes. Ce n'est pas un hasard si ce premier anniversaire de la béatification du père Marie Eugène vient juste après la célébration du 20e anniversaire du doctorat de Thérèse. Alors, dans cet exposé, nous allons d'abord considérer le bienheureux Marie-Eugène dans l'espace évangélique de la communion des saints. Ensuite, nous le suivrons dans sa communion avec Jésus dans les mystères de l'incarnation et de la rédemption. Et là, je pourrais beaucoup résumer parce que les textes que qui ont été lus dans les très belles conférences de ce matin, vous voyez, donc je pourrais résumer assez rapidement le deuxième point. Donc, premier point, le bienheureux Marie-Eugène de l'enfant Jésus dans la communion des saints. La meilleure clé pour entrer dans l'âme du père Marie-Eugène nous est donnée par Thérèse de Lisieux dans la dernière page de l'histoire d'une âme, dans cette finale du manuscrit C, où elle commente longuement un texte de l'Écriture sainte, ces paroles que l'épouse du Cantique des Cantiques adresse à son époux, « Attire-moi, nous courons à l'odeur de tes parfums. » Cantique 1, 4. Pour Thérèse, l'époux est évidemment Jésus. Elle retrouve spontanément le grand symbole de la divinisation de l'homme chez les pères grecs, qui est celui du fer de notre humanité, rendu incandescent par le feu de l'Esprit-Saint. Alors ce texte s'applique merveilleusement au bienheureux Marie-Eugène, intimement uni à Jésus dans l'Esprit-Saint, attirant à sa suite une multitude d'âmes, vous voyez, attiré pour attirer les autres, prenant toute sa place dans la grande ronde des saints, témoin de la géniale science des saints, toujours puisée dans l'oraison, et surtout habitant l'évangile à la manière de Thérèse. Donc je lis ce texte magnifique, vraiment, mais déjà en écoutant lire, pensez au père Marie-Eugène. Voici ma prière, vous avez le texte sous les yeux, c'est le premier. Voici ma prière, je demande à Jésus de m'attirer dans les flammes de son amour, de m'unir si étroitement à lui qu'il vive et agisse en moi. Je sens que plus le feu de l'amour embrasera mon cœur, plus je dirai « attirez-moi ». Plus les âmes qui s'approcheront de moi, pauvres petits débris de fer inutile si je m'éloignais du brasier divin, plus ces âmes courront avec vitesse à l'odeur des parfums du bien-aimé, car une âme embrasée d'amour ne peut rester inactive. Tous les saints l'ont compris, et plus particulièrement peut-être, ceux qui remplirent l'univers de l'illumination de la doctrine évangélique. N'est-ce point dans l'oraison que les saints Paul, Augustin, Jean de la Croix, Thomas d'Aquin, François, Dominique et tant d'autres illustres amis de Dieu ont puisé cette science divine qui ravit les plus grands génies? Un savant a dit « Donnez-moi un levier, un point d'appui et je soulèverai le monde ». Ce qu'Archimède n'a pu obtenir parce que sa demande ne s'adressait point à Dieu et qu'elle n'était faite qu'au point de vue matériel, les saints l'ont obtenu dans toute sa plénitude. Le Tout-Puissant leur a donné pour point d'appui lui-même et lui seul, pour levier l'oraison qui embrase d'un feu d'amour. Et c'est ainsi qu'ils ont soulevé le monde. C'est ainsi que les saints encore militants le soulèvent et que jusqu'à la fin du monde, les saints à venir le soulèveront aussi. Mère chérie, maintenant je voudrais vous dire ce que j'entends par l'odeur des parfums du bien-aimé. Puisque Jésus est remonté au ciel, je ne puis le suivre qu'aux traces qu'il a laissées, mais que ces traces sont lumineuses, qu'elles sont embaumées. Je n'ai qu'à jeter les yeux dans le Saint-Évangile. Aussitôt, je respire les parfums de la vie de Jésus et je sais de quel côté courir. Ce n'est pas à la première place, mais à la dernière que je m'élance. Au lieu de m'avancer avec le pharisien, je répète rempli de confiance l'humble prière du publicain. Mais surtout, j'imite la conduite de Madeleine, son étonnante ou plutôt son amoureuse audace qui charme le cœur de Jésus, séduit le mien. Oui, je le sens. Quand même j'aurai sur la conscience tous les péchés qui peuvent se commettre, j'irai le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus. Car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. Ce n'est pas parce que le bon Dieu, dans sa prévenante miséricorde, a préservé mon âme du péché mortel, que je m'élève à lui par la confiance et l'amour. Donc un texte d'une beauté, d'une puissance, d'une richesse extraordinaire, voyez. Et évidemment, il n'est pas difficile d'intégrer le bienheureux Marie-Eugène parmi ses illustres amis de Dieu, qui ont puisé à la même source de l'oraison, cette science divine, cette grande science des saints, qui est d'abord celle de Paul et de tous les auteurs de l'Écriture sainte, d'Augustin et des autres pères de l'Église, de Thomas d'Aquin et des autres docteurs médiévaux, et de tous ces mystiques représentés par François d'Assise et Jean de la Croix. Vous voyez, cette simple liste de Thérèse est emblématique pour signifier ce prisme de la théologie des saints, qui est cette complémentarité des pères, des docteurs et des mystiques pour faire resplendir la lumière du Christ dans le cœur de l'Église. Marie-Eugène donne évidemment la main à Jean de la Croix, mais aussi à Thomas d'Aquin, dont il a profondément assimilé la théologie. Comme Jean de la Croix, Marie-Eugène est un carme prêtre qui a fait de solides études théologiques, en particulier dans la lumière de saint Thomas. Mais surtout, ce texte de Thérèse exprime de façon splendide ce fondamental rapport avec l'Évangile qui caractérise également le père Marie-Eugène. Pour lui, comme pour elle, lire l'Évangile, c'est respirer les parfums de la vie de Jésus, cette bonne odeur du Christ que l'Esprit-Saint ne cesse de répandre dans l'Église pour tous les hommes de tous les temps. C'est habiter l'Évangile avec Marie et Joseph, avec les apôtres et les disciples, les saintes femmes, Marie-Madeleine, l'enfant prodigue, le publicain, le bon larron, etc., hein, ces personnages. C'est suivre Jésus dans cette course amoureuse de l'épouse du Cantique des Cantiques. C'est l'Évangile résonnant dans toute l'Écriture de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors, selon le pape Benoît XVI, notre pape émérite, grand théologien, ce rapport de Thérèse avec l'Évangile et toute la Bible est exemplaire pour tous les fidèles et spécialement pour les théologiens et les exégètes. Il l'a dit à plusieurs reprises. Dans sa catéchèse du 6 avril sur Thérèse, 6 avril 2011, il rappelait le sens de son doctorat proclamé par Jean-Paul II, défini comme experte de la scientia amoris, de la science de l'amour, et il soulignait particulièrement donc son lien avec l'Évangile, disant que l'histoire d'une âme était un commentaire lumineux de l'Évangile pleinement vécu. Et donc cette expression de la scientia amoris, la science de l'amour, utilisée par Jean-Paul II pour caractériser le doctorat de Thérèse, vous voyez, le père Marie-Eugène disait docteur de la vie mystique, c'est la même chose. Et alors, dans les paroles que Benoît XVI m'avait adressées afin de la fin de la retraite prêchée au Vatican, donc il disait ceci. Donc, la scientia amoris et la science, donc la science de l'amour et la science de la foi vont ensemble et se complètent. La grande raison et le grand amour vont ensemble. Plutôt, le grand amour va davantage que la raison seule. C'est une manière merveilleuse d'articuler cette connaissance des saints sur le versant plus intellectuel, pensez saint Thomas d'Aquin, sur le versant des mystiques, avec, et je dirais, le père Marie-Eugène, donc c'est un mystique, principalement un mystique du Carmel, mais aussi avec, comme Jean de la Croix, cette bonne connaissance de la théologie aussi plus intellectuelle. Donc à travers ces différentes modalités de la science des saints, cette science divine que tous ont puisée dans l'oraison, c'est la même réalité fondamentale qui est contemplée, c'est-à-dire Dieu et l'homme dans le Christ Jésus, voie, vérité et vie. Dieu et l'homme dans le Christ Jésus, voie, vérité et vie, que ce soit dans l'histoire d'une âme de Thérèse, dans la somme théologique de saint Thomas, et dans cette admirable somme de théologie spirituelle qu'est « Je veux voir Dieu ». Il y a aussi d'autres synthèses, pensez donc le château intérieur de Thérèse d'Avila, c'est l'âme qui est le lieu de la synthèse, le traité de la vraie dévotion de saint Louis-Marie, donc c'est Marie en son âme et en son corps, Jésus vivant en Marie, donc tous les mystères toujours sont contemplés, toujours la même réalité, Dieu et l'homme dans le Christ Jésus, voie, vérité et vie. Alors le livre du père Marie-Eugène, donc là, « Je veux voir Dieu », c'est sûrement la plus belle synthèse des trois docteurs du Carmel, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix et Thérèse de Lisieux, docteur de la vie intérieure pour tout le peuple de Dieu. Et alors je vous ai donné, là je vais résumer en quelques mots ce que j'ai écrit bon, pour essayer de ne pas dépasser les trois quarts d'heure. Je ne peux pas parler du père Marie-Eugène sans donner le tableau de « Je veux voir Dieu », qui est quelque chose, pour moi, quelque chose de lumineux, de génial aussi, d'une telle clarté, d'une telle simplicité. Et alors, vous voyez, j'ai simplement quelques mots. Donc, vous avez à gauche les sept demeures, le livre des demeures de Thérèse d'Avila. Vous avez à droite le livre de « Je veux voir Dieu » dans ses cinq parties. Ce sont deux textes, mais la reste, la réalité, c'est ce qui est au milieu dans les trois colonnes. Vous voyez, ces deux textes sont relatifs à une même réalité, justement. Vous voyez, action de Dieu, activité de l'âme, le Christ. C'est exactement les trois parties de la somme, Dieu, l'homme, le Christ. On voit d'ailleurs comment cette structure de fond, donc ça, Bienheureux Marie-Eugène l'avait reçue de saint Thomas d'Aquin. Et donc, et alors avec cette distinction, on l'a rappelé, ces deux phases, vous voyez, la première qui comprend les trois premières demeures et puis la deuxième phase qui comprend les quatre demeures suivantes. Et alors on voit bien qu'il y a des seuils. Rappelez-vous, Thérèse d'Avila, elle parle aussi des âmes qui sont en dehors du château, qui sont pas dans la grâce de Dieu, qui sont dans le péché mortel. Et donc il y a le seuil fondamental du salut, qu'elles accueillent la grâce de Dieu. Et donc, on entre c'est l'entrée dans les premières demeures. Et puis, le deuxième grand seuil, c'est celui de la vie mystique. Donc, c'est le passage des troisièmes demeures aux quatrièmes demeures, dont la clé est le don de soi. On en redira quand même quelques mots. On ne peut pas parler de la doctrine du père Marie-Eugène sans parler du don de soi. On y revient toujours. Et puis, le dernier grand seuil, c'est le seuil de la sainteté. Donc, c'est le passage des cinquièmes aux sixièmes demeures. Sixième, vous voyez, c'est très beau. Donc, la cinquième partie, sainteté pour l'Église, qui est une merveille, eh bien, très longue d'ailleurs, vous voyez, le mot sainteté est employé ici. Alors, tout s'applique à la sainteté, c'est très important, vous voyez, pour tout le peuple de Dieu. Donc, c'est pas seulement, nos trois docteurs sont docteurs de l'Église universelle, mais c'est pas seulement pour les carmes, c'est pour tous les baptisés. Tout s'appelait à la sainteté, la dimension de la vie intérieure, qui est ainsi merveilleusement éclairée. Alors, voyez, pour nous, bien sûr, eh bien, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est ce qui est dans cette colonne, le Christ. À toutes les étapes de la vie spirituelle, le Christ, étudier le Christ de Jésus dans l'Évangile, s'attacher à son humanité, dans les trois premières demeures, et ça restera toujours vrai. Ensuite, sagesse d'amour agissante, dans les quatrièmes demeures, lumière du Verbe éblouissante. Ensuite, la sagesse prend possession de la volonté pour la réalisation de son dessein, l'Église. Alors, dans les sixièmes demeures, dans la nuit de l'Esprit, union au Christ Sauveur et à Marie toute mère. C'est de toute beauté, là, justement, la contemplation du mystère, on en reparlera. Et à la fin, septième demeure, union au Christ total. Donc, vous voyez cet itinéraire de la communion avec Jésus. Alors, je pense, toute l'œuvre est intéressante, je pense que les deux parties les plus originales, vraiment ce qui apporte le plus de nouveau, et les plus importantes pour nous aussi, c'est la troisième et la quatrième partie. La troisième partie, vous voyez, qui se situe entre les troisième et les quatrième demeures, avec ce chapitre central sur le don de soi. Et c'est là qu'il va y avoir les plus hautes réflexions sur l'incarnation. On a déjà entendu les textes qui ont été lus ce matin, cette communion vivante au mystère de l'incarnation, révélée dans l'Évangile. Et puis, donc, la cinquième partie, sainteté sur l'Église, justement, cette grande plongée, spécialement dans l'agonie de Jésus, comme on l'a si bien vu ce matin avec la conférence du père Guillaume. Voilà. Alors, c'est donc, vous voyez, ce tableau qu'il faut toujours avoir devant nous. Et alors, je vous ai donné trois textes fondamentaux du Père Marie-Eugène, donc en rapport avec notre sujet de cette communion vivante avec Jésus. Donc, dans cette mine qui est « Je veux voir Dieu », nous trouvons certains textes qui brillent comme des diamants et qui éclairent toute la vie et l'œuvre du bienheureux Marie-Eugène. Alors, j'en ai retenu trois, qui reviennent toujours, vous voyez, depuis des années, parce que tellement lumineux, tellement synthétique aussi. Des textes qui se réfèrent à saint Thomas d'Aquin, à saint Jean de la Croix et à sainte Thérèse d'Avila. Et donc, on va les lire et quelques petits commentaires. Donc, le premier texte se trouve à la fin du livre, dans le dernier chapitre qui considère le saint dans le Christ total. Et c'est là que nous trouvons un texte magnifique qui reprend et d'une certaine manière vérifie la théologie de saint Thomas. Donc, le père Guillaume, ce matin, en a lu la deuxième partie, là, je le lis en entier. Le saint parvenu à l'union transformante n'est plus sur la berge où l'esprit considère et discute. Il est plongé dans l'œuvre de l'amour et en son expérience, il trouve une lumière qui aveugle l'intelligence mais réduit toutes les antinomies. Ces antinomies ou oppositions apparentes sont une des lois de l'amour divin qui les porte en lui comme une de ses richesses et qui en marque ses œuvres comme d'un sceau personnel. Cet amour s'incarne et divinise. Il répand la joie et la tribulation. Il produit une lumière qui est obscurité. Le Christ Jésus, qui assure son règne ici-bas, est le Verbe fait chair, qui sans cesser de jouir de la vision béatifique, a connu la plus douloureuse souffrance qu'un homme ait portée ici-bas, qui a triomphé enfin en mourant sur la croix. Comment le saint, transformé par l'amour et identifié au Christ Jésus, ne porterait-il pas en lui ces richesses caractéristiques de l'amour divin ici-bas? De fait, l'amour qui le divinise le laisse un homme comme nous. Il porte en lui le Tabor et Gethsémani. Il est le plus heureux des hommes parce qu'il jouit du Verbe en son sein, et le plus malheureux parce qu'il porte le péché du monde. Fixé en Dieu par l'union transformante, il est cependant l'homme et le saint d'une époque, d'un peuple, d'un âge bien déterminé du corps mystique du Christ en pleine croissance. Le divin et l'éternel qui sont en lui ne l'empêchent pas, ou plutôt l'obligent à s'incarner dans le temporel le plus humain de son époque. Alors ici, nous nous trouvons au sommet de cette interprétation réaliste de l'Évangile dans la communion vivante avec Jésus. Vous voyez, en référence à ces deux grands mystères antinomiques du Tabor et de Gethsémani, c'est-à-dire de la transfiguration et de l'agonie. Saint Thomas n'est pas nommé, mais sa christologie est merveilleusement reprise, et comme vérifiée, expérimentée. Dans ce grand paradoxe de la vie terrestre de Jésus, disait saint Thomas, « Simul viator et comprehensor ». Donc, vrai homme en chemin, comme nous, sujet à la souffrance, etc., et comprehensor ayant déjà la vision face à face. Donc, unissant dans son humanité ces deux extrêmes de la gloire et de la faiblesse. À la suite de saint Thomas, le bienheureux Marie-Eugène affirme que Jésus avait toujours la vision béatifique et non la foi, au cœur même des souffrances de sa passion. C'est là une grande vérité qu'il rappelle souvent et qu'il défend énergiquement, car elle était déjà contestée par certains théologiens. Là, j'ai des citations du père Marie-Eugène que je n'ai pas le temps de lire, mais c'est un point qu'il défend, vous voyez, très, très, très énergiquement, parce qu'il en voit l'importance. Et je crois que le bienheureux Marie-Eugène peut aider les théologiens catholiques à retrouver cette grande vérité, au fond déjà vécue par saint Paul quand il affirmait « Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré pour moi ». Paul savait que Jésus l'avait personnellement aimé dans sa passion, alors qu'il ne s'était jamais rencontré sur la terre. Pour le père Marie-Eugène, la vision béatifique de Jésus dans tous les mystères de sa vie terrestre est le fondement de sa propre communion à ces mêmes mystères révélés dans l'Évangile. Alors, vous voyez, ça, c'est un point aussi très... Alors, la petite Thérèse, elle ne parle pas de la vision, elle n'emploie pas l'expression vision béatifique, mais elle affirme très, très souvent dans ses écrits. Jésus, elle dit, dans, par exemple, dans la poésie, « Jésus, mon bien-aimé, rappelle-toi, de ta petite main qui caressait Marie, tu soutenais le monde et tu pensais à moi. » C'est merveilleusement vrai, du point de vue dogmatique. Ce petit enfant, il est Dieu en personne, il est le créateur de l'univers. Il ne cesse pas d'être Dieu quand il devient homme. Il a besoin de sa maman pour vivre en son humanité. Et tu pensais à moi. Et dans la même poésie, Jésus en agonie, elle lui dit, Jésus, au milieu, tu me vis au milieu de tes lices. Donc, je dirais, c'est un lieu commun qu'on trouve chez tous les saints, chez tous les mystiques. Alors, c'est Père Marie-Jeanne aussi, voyant qu'il me voyait, on l'a lu ce matin dans le texte de l'agonie, mon péché, mais aussi ma bonne volonté, mon amour. Alors, bien sûr, là, ce texte-là, vous voyez, il est sur le sommet. Mais avant d'arriver à ce sommet de la sainteté, à cette communion totale et intérieure au mystère de Jésus, le fidèle a dû parcourir tout ce chemin éclairé dans « Je veux voir Dieu », dans ce jeu continuel de la grâce et de la liberté, de l'action de Dieu et de l'activité de l'âme dans la communion avec le Christ, voie, vérité et vie. Donc, ces trois colonnes du tableau inaugural, la réalité. Donc, alors les deux autres textes fondamentaux que je vous ai donnés nous donnent la vue d'ensemble de ce chemin intérieur de sainteté, toujours comme cette communion vivante avec Jésus. Alors, deuxième texte, donc à la suite de Jean de la Croix, le bienheureux Marie-Eugène considère le mariage spirituel qui correspond au septième demeure de Thérèse d'Avila. Je lis le texte. « Ce verbe époux, sur source de tous ses biens, l'âme l'expérimente en elle. Il repose en la pénombre, endormi, semble-t-il. Son souffle vivant signale cependant sa présence et son action. Quel grand désir l'âme de le connaître. Lorsqu'elle demandait à entrer dans les profondeurs, c'était bien une pénétration plus profonde et une connaissance plus intime du Christ et de ses mystères qu'elle voulait. Le Verbe époux est à elle, elle est à lui. Cette possession et cette compénétration mutuelle la font entrer effectivement dans ces hautes cavernes que sont les mystères du Christ, dans cette mine inépuisable aux innombrables filons qui recèlent des richesses toujours nouvelles. Ces mystères qu'elle a connus par la foi, qu'elle a étudiés dans la théologie, qu'elle a pénétré par le regard simple de son oraison, s'éclaire par les profondeurs. La lumière qui les éclaire et le regard qui les saisit ne sont plus à l'extérieur. L'expérience de l'amour a pénétré dans leur profondeur et ils sont éclairés par un embrasement intérieur. En effet, l'inépuisable profondeur du mystère du Christ était exprimée par saint Jean de la Croix avec les symboles des cavernes et de la mine aux nombreux filons, dans la strophe 37 du cantique B. La vie spirituelle apparaît toujours comme vie dans le Christ, dans la dynamique du passage de l'extériorité à l'intériorité, jusqu'à être entièrement en lui. Nous en lui et lui en nous, selon les paroles de Jésus lui-même. Hein, demeurez en moi et moi en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Pour saint Thomas, c'est l'amour de charité qui opère cette union si intime, cette possession et compénétration mutuelle que saint Thomas appelait mutua inesio amantium, hein, mutuelle, pas adhésion, inesion, l'un dans l'autre. Dans ce texte, le père Marie-Eugène articule de façon splendide les deux modalités de notre connaissance des mystères de Jésus. D'un côté, la réflexion théologique et de l'autre, la vie d'oraison. Ces mystères sont toujours fondamentalement connus au moyen de la foi. C'est la foi qui illumine la raison dans l'étude théologique. C'est la même foi animée par la charité qui pénètre dans le mystère avec le regard simple de l'oraison. L'harmonie et la complémentarité entre théologie et contemplation est un des grands thèmes développés par le père Marie-Eugène dans la troisième partie de « Je veux voir Dieu ». Ce qu'il dit ici est essentiel pour l'avenir de la théologie catholique. Ce chemin de vie et de pensée qui unit la réflexion théologique et la vie d'oraison est présenté par lui comme un passage progressif d'une connaissance extérieure à la connaissance intérieure du mystère de Jésus jusqu'à sa pleine réalisation dans la sainteté. C'est ce fameux retournement psychologique qui est une véritable révolution, un des principaux effets de la nuit de l'esprit. Le troisième texte fondamental du père Marie-Eugène se réfère explicitement à sainte Thérèse d'Avila, présentant de façon plus détaillée cette communion progressive à tous les mystères de Jésus révélés dans l'Évangile, et cela à travers le cheminement des sept demeures du château intérieur. Considérez le Christ, limité dans ses actes, dans ses pensées, dans ses sentiments et ses vouloirs. Le suivre de Bethléem au calvaire est la voie la plus sûre et la plus courte. Réaliser le Christ, on a souligné l'importance de cette expression, réaliser le Christ et le faire vivre en soi est la perfection la plus haute. Unis à Jésus et fixés en lui, nous sommes au terme de nos ascensions et déjà en notre place d'éternité. Toute doctrine et toute voie qui éloignerait du Christ ou n'y conduirait pas serait une doctrine fausse ou une voie suspecte. Avoir établi vigoureusement les conséquences pratiques de cette vérité dans le domaine spirituel constitue pour sainte Thérèse un de ses titres de gloire qui légitime son autorité de maîtresse spirituelle. Elle nous apprend à nous attacher fortement à l'humanité du Christ, voie, vérité et vie. De même qu'à ne point résister au souffle de la grâce lorsqu'il veut nous emporter dans les profondeurs obscures de la sagesse. Nous retrouverons son enseignement détaillé et précis dans les diverses demeures. En parcourant les trois premières, le regard de l'âme devra inlassablement fixer le bon Jésus. La sagesse du Verbe se manifestera obscure ou savoureuse dans les quatrième et cinquième demeures. Dans le dépouillement et la pauvreté complète des sixièmes demeures, l'âme devra communier au mystère douloureux du Christ en attendant qu'elle communie au triomphe de sa vie en elle dans l'union transformante des septièmes demeures. Vous voyez donc ce progrès qui est une exploration progressive, communion toujours plus complète, plus totale au mystère de Jésus. Donc, ces grandes étapes étaient déjà indiquées dans le tableau initial de « Je veux voir Dieu ». Le Christ, vrai Dieu et vrai homme, est toujours au centre des étapes de la vie spirituelle dans lesquelles toujours l'action de Dieu, par sa grâce, suscite l'activité de l'âme, c'est-à-dire la coopération libre de l'homme, toujours indispensable. Au fil de ce demeure, l'âme expérimente la communion à l'humanité et à la divinité de Jésus, les deux dernières étant la pleine immersion dans sa mort et sa résurrection. Alors, deuxième point, je vais résumer. Donc, la communion avec Jésus dans les mystères de l'incarnation et de la rédemption. Comme sainte Thérèse de l'enfant Jésus de la Sainte Face, le bienheureux Marie-Eugène n'a cessé d'approfondir les deux plus grands mystères de Jésus qui encadrent nos évangiles, le mystère de l'incarnation et le mystère pascal de la rédemption, en contemplant la même dynamique de l'amour qui s'abaisse de la crèche à la croix. Le propre de l'amour étant de s'abaisser, écrivait Thérèse, l'extrême abaissement de la croix étant suivi de la suprême élévation dans la gloire de la résurrection. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Pour lui comme pour Thérèse, les mystères de la crèche et de la croix sont inséparables. Là, je cite un très beau passage d'une conférence sur le mystère de Noël du 22 décembre 1955. Pour comprendre la crèche, il faut se porter au calvaire. Quand nous le regardons, nous voyons que notre Seigneur avait rempli sa mission. Il était devenu un homme. Il avait fait des miracles et maintenant, au calvaire, il se réduit à l'impuissance de la crèche. On peut établir un parallèle entre les langes et les clous. C'est la même immobilité, la même impuissance physique, mais celle du calvaire est autre que celle de la crèche. Celle-ci était gentille. Au calvaire, le Christ est trituré. Après avoir été flagellé et couronné d'épines, il est cloué sur la croix. Il était devenu un homme. Maintenant, il n'est même plus un homme, tellement il est défiguré par les tourments subis et immobilisés. Cette impuissance du calvaire, il l'a préparée. C'est son sommet. C'est sur la croix. Il n'a même plus les langes préparées avec amour par la Sainte Vierge. Il est tout nu. Et c'est dans cet état qu'il va mourir. Sa divinité reste cachée. Il est impuissant. Cette impuissance est un mystère que nous ne pouvons pénétrer. Sa divinité semble être partie dans des régions tellement inconscientes qu'il se plaint d'être abandonné. Ce n'est pas un mal superficiel. Il est ressenti dans les profondeurs de l'âme. Et cependant, nous sommes à un terme, à un sommet. Ce n'est pas seulement le sommet d'un désastre, c'est un triomphe. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Le sommet de l'échec est aussi le sommet de l'exaltation. La crèche et le calvaire sont parallèles, deux tableaux d'un seul diptyque qui s'éclairent mutuellement et qui encadrent la vie du Christ. Un texte, il n'y a que les saints qui parlent comme ça du mystère de Jésus. Alors, donc, un mot concernant l'incarnation et le don de soi, ça a été très très bien déployé ce matin, vous voyez, donc toujours en lien, la vérité révélée dans l'Évangile, interprétée par l'Église, donc la vérité de la foi, et son impact, la communion dans notre vie, et donc ça va être par le don de soi que nous allons entrer dans les profondeurs du mystère de l'incarnation. Et alors, dans le « Je veux voir Dieu », c'est très beau, parce qu'on voit d'abord, vous voyez, c'est le don total de Jésus et de Marie. Marie, son fiat, qui précède l'incarnation, la porte ouverte, le fiat maternel de Marie, immédiatement suivi du fiat rédempteur de Jésus. Et alors, là, ce matin, de très beaux textes ont été lus, je ne vais pas les relire, mais j'en lis un autre, qui va tout à fait dans le même sens, donc d'une conférence sur le don de soi, du 2 août 1961. Pour voir la valeur de ce don de soi, il faut regarder notre Seigneur. Son humanité n'existait pas auparavant. Elle n'a pas toujours existé, mais il y avait le Verbe, deuxième personne de la Sainte Trinité. Il prend une humanité dans la Vierge Marie, et cette humanité arrive à l'existence. Un corps, une âme, ex Maria Virginae, de Spiritu Sancto, par l'action de l'Esprit Saint. Arrivant à l'existence, cette humanité de notre Seigneur est immédiatement douée de la vision béatifique. Elle voit Dieu face à face, en elle-même, puisque en notre Seigneur, il y a l'humanité et la divinité. Le Christ se rend compte immédiatement qu'il a tout reçu gratuitement. L'humanité du Christ n'a rien fait pour mériter d'être unie à la divinité. Elle n'a rien fait pour l'union hypostatique, puisqu'elle n'existait pas. L'union hypostatique est un geste de la miséricorde. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a soufflé son Verbe, envoyé son Verbe dans une humanité qui est celle de Jésus. Nous pouvons contempler cela, regarder cette humanité du Christ, se rendant compte qu'il est Dieu, il le voit face à face. Il n'a pas la foi, lui, il a la vision. Que va faire notre Seigneur dans cette vision de la divinité qui est en lui? Il voit aussi très clairement en Dieu le dessein de Dieu sur lui. Quelle va être sa réponse à l'emprise du Verbe, à cette pénétration de Dieu dans cette humanité? La réponse de notre Seigneur nous est signalée par le psalmiste, elle est importante, l'Épître aux Hébreux nous le dit, le Christ, en entrant dans le monde, s'est tourné vers Dieu, voyant tout dans la lumière, vous m'avez créé, vous m'avez donné un corps, me voici pour faire votre volonté. Un texte splendide en écho de ce qu'on a déjà entendu ce matin, qui sont dans « Je veux voir Dieu ». Donc tout ça est de la très grande théologie. Alors à l'arrière-fond, bien sûr, il y a toutes les doctrines de saint Thomas, les questions sur la conception du Christ, et aussi les très beaux développements du cardinal de Bérulle, donc sur cet instant de l'incarnation. Donc, alors aussi, le texte qui a été lu ce matin, de ce thème aussi, de devenir, vous voyez, comme une communion tellement intime au mystère de l'incarnation, avec l'expression bérullienne reprise par Élisabeth de la Trinité, devenir pour lui comme une humanité de surcroît. Et l'idéal, c'est la réalisation de la parole de saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis ». C'est le Christ qui vit en moi. Alors, sur le mystère, alors aussi, c'est important, et on ne peut entrer dans cette intimité avec Jésus que par le don total de soi-même. Alors, là, c'est un des points les plus intéressants du chapitre sur le don de soi, mais je dirais un peu de toute cette troisième partie, le rapport entre le don de soi et la vie mystique, la contemplation mystique. Et le père Marie Eugène disait « Quand une âme est toute donnée, elle est contemplative ». Il disait que beaucoup de ces discussions sur l'appel, est-ce qu'on est appelé tout le monde, disait « Ce sont des enfantillages ». Il disait « Il y a des âmes qui sont données et des âmes qui ne sont pas données ». Alors, vous voyez, je crois que c'est extrêmement important parce que Thérèse de Lisieux, qu'est-ce qu'elle donne à tous les baptisés? L'offrande de l'amour miséricordieux comme victime d'Holocauste. « Holos » en grec, ça veut dire « tout entier ». Louis-Marie de Montfort se donnait tout entier l'esclavage d'amour. Et Thérèse d'Avila, qu'est-ce que c'est qu'un vrai spirituel? Septième demeure, chapitre 4, tout dernier chapitre, celui qui se laisse vendre comme esclave sur toutes les places du monde, comme il le fut lui-même, le Christ Jésus. Vous voyez, donc pour dire cette radicalité de ce don, bien sûr, il devrait être... Alors, quelques mots sur l'agonie de Jésus. Donc le père Guillaume a si bien parlé ce matin en lisant tous ces textes, donc en parlant à propos du péché, à propos aussi, surtout spécialement dans la nuit, de l'esprit. Mais ce qui me paraît très important, vous voyez aussi, c'est que, donc, Jean de la Croix parle de la nuit de l'esprit, mais là, le père Marie-Eugène, il apporte vraiment du nouveau. il explicite la dimension christologique. Alors, quand il parle de l'humanité comme d'un champ de bataille, vous voyez, champ de bataille, Christ comme le grand pêcheur, j'ai trouvé ça aussi chez la bienheureuse Dina Bélanger, une grande mystique québécoise, donc morte en 1929, vous voyez, c'est qui avait aussi une merveilleuse, bouleversante communion à l'agonie de Jésus dans les derniers mois de sa vie. Alors, même expérience, vous voyez, et alors aussi la joie. Ça, le père Guillaume l'a très bien souligné ce matin, vous voyez, de Catherine de Sienne, reprenant et vérifiant la doctrine de saint Thomas, mais de façon plus expérimentale, disait que le Christ souffrant était beato et doloroso, bienheureux et douloureux. Et Thérèse, c'est le moment où elle le souffre le plus qu'elle écrit sa poésie sur la joie, ma joie. Et ça se termine avec ces mots, Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. Vous voyez, donc plus la joie grandit, et c'est impressionnant, donc dans le cœur de Jésus et aussi dans le cœur des saints unis à Jésus. Alors, ce qui est un point important, vous voyez, donc que j'avais développé de mon côté, je résume, c'est la question de l'appropriation du péché. Alors là, c'est un thème qui avait été déjà développé par les pères grecs, Maxime le Confesseur, Jean Damascène, repris par saint Thomas d'Aquin. Font c'est le commentaire de l'expression de saint Paul, qu'il est, lui qui était sans péché, il est devenu péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Bon, pour ma part, j'ai toujours été fasciné par le mystère de l'agonie de Jésus. J'ai fait mon premier travail sur Maxime le Confesseur, l'interprétation de l'agonie de Jésus chez Maxime le Confesseur. J'ai étudié chez quantité de saints penseurs, comme Thomas d'Aquin, vous voyez, des mystiques. Eh bien, alors cet aspect si mystérieux que quand Jésus accepte de boire la coupe, il prend réellement en lui la totalité du péché du monde. C'est plus à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Alors j'avoue que là, je n'ai jamais trouvé ça aussi bien formulé que dans les textes du père Marie-Eugène sur l'agonie de Jésus. Et alors, donc il y a ces six beaux textes de « Je veux voir Dieu » qui ont été lus ce matin, des textes dans les heures saintes. Mais alors, un mot, vous voyez, en terminant, à propos des heures saintes. Parce que donc, je veux voir Dieu, c'est une somme que j'aime mettre au même niveau que la somme de saint Thomas. Somme de théologie intellectuelle, somme de théologie spirituelle. Dans la somme de saint Thomas d'Aquin, il n'y a pas de prière. Dans la somme, dans le livre du père Marie-Eugène, il me semble qu'il n'y a pas de prière non plus. N'est-ce pas? Faudrait voir. Peut-être que je dis une bêtise, mais il ne me semble pas que c'était. Mais alors, saint Thomas était un homme de prière, mais il y a quantité de prières en dehors. Et c'est là, je pense, vous voyez, que les textes, parce que c'est un phénomène que j'ai étudié chez beaucoup de saints, la forme littéraire de la prière. Alors, par exemple, un homme comme saint Anselme, que tout le monde connaît comme un grand penseur, philosophe, spéculatif, etc. Mais saint Anselme a le bonheur de vivre avant la naissance des universités, au XIe siècle. Il a encore le droit. Eh oui, l'université, c'est un progrès par un côté et c'est un recul par l'autre. Mais saint Anselme a encore le droit, comme le père de l'Église, d'exprimer sa doctrine en prière. Et l'œuvre la plus spéculative de saint Anselme, que tout le monde connaît, le Prostogion, où il y a le fameux argument, hein, c'est une méditation à partir de Exode 3.14, « Je suis celui qui est, ego sum qui sum », et l'homme en prière répond « Tu es qui es ». Vous voyez, c'est la forme littéraire de la prière, c'est celle qui épouse la parole de Dieu quand il dit « Je suis » dans la révélation. Je dirais que c'est la forme la plus scientifique de toutes, parce que qu'est-ce que c'est que cette prière? C'est simplement l'acte de foi, d'espérance et d'amour. Je crois en toi, j'espère en toi et je t'aime. Et alors on voit très bien que chez saint Anselme, le passage à la prière, ça diminue pas la réflexion, ça l'intensifie au contraire. Alors ça, l'université n'a plus compris ça. On prie à la chapelle, fait la théologie scientifique, on parle... Alors heureusement, chez les mystiques, il y a toujours eu la forme de la prière comme forme d'expression privilégiée. Alors, ce qui me paraît extrêmement important, vous voyez, c'est que la somme, cette somme que je veux voir Dieu, est merveilleusement complétée. Et je pense spécialement les textes sur l'agonie de Jésus. Parce qu'alors là, et quand on lit des textes, aussi moi j'ai été fasciné par l'heure sainte de 61, qui est une des plus belles, il y a le « je » et le « nous ». Donc, il prie, mais il fait prier les autres, ensemble, vous voyez. Et alors, à ce moment-là, cette forme littéraire de la prière, donc, elle pénètre encore plus dans le mystère de Jésus. Et en même temps, donc, il y entraîne les autres. Alors, je crois, vous voyez, donc, on est en présence de quelque chose de très, très grand. Moi, chaque fois que je me replonge dans l'âme du père Marie-Eugène, car l'étude des saints, pour moi, c'est véritablement devenu, vous voyez, de plus en plus d'entrer dans l'âme des saints, je dois le faire professionnellement, comme consulteur pour les causes des saints, ça demande beaucoup de travail. Mais là, je voulais vous dire une chose, vraiment en toute simplicité. Donc, je commence à avoir une certaine expérience des doctorats de l'Église. Donc, j'ai travaillé pour celui de la petite Thérèse, qui a abouti. J'ai travaillé pour plusieurs autres. Un autre qui a déjà abouti, Saint-Grégoire de Narek, le docteur arménien, je peux en parler. Je travaille pour d'autres qui n'ont pas encore abouti, mais qui aboutiront certainement, vous voyez. Mais je dirais vraiment, ma certitude, c'est que le père Marie-Eugène, il a le profil d'un docteur de l'Église. Et je dis pas ça parce que je le dirais aussi bien à Rome, vous voyez, que devant vous, parce que je pense justement que, enfin, bien sûr, il a écrit un livre, un grand livre, mais qui est un chef-d'œuvre, qui est tellement important justement pour le peuple de Dieu. Donc je crois vraiment, vous voyez, que c'est... Alors je pensais, j'ai porté tout ça tous ces jours-ci dans la prière, mais vous voyez, au fond, le père Marie-Eugène, il voyait déjà Thérèse, le docteur de l'Église, alors avant même qu'elle ne soit béatifiée. Le père Louis Mainviel nous a fait une très belle conférence à Lisieux, donc on a eu un colloque pour le 20e anniversaire du doctorat de Thérèse, et il a montré justement comment tout de suite, déjà avant même qu'elle ne soit béatifiée, il la voit déjà comme docteur de la vie mystique. Vous voyez, donc quelque chose de prophétique. Alors le père Marie-Eugène, et il faut bien sûr, il faut qu'il soit bien vite canonisé, parce que le doctorat n'est possible qu'à partir de la canonisation. Mais vous voyez, je pense que c'est déjà bien d'y penser. Et je crois que vraiment, je dis, c'est quelque chose de très très grand. Je suis impressionné de voir, en dehors, vous voyez, du Carmel Institute, le colloque qu'on a eu à Rome, donc des professeurs salésiens, notre cher ami Piero Coda, qui est un des meilleurs théologiens italiens, membre du mouvement des Focolari, mais il y a une fascination pour l'œuvre du Père Marie-Eugène, et en particulier pour son chef-d'œuvre qui est Je veux voir Dieu. Donc on est porteurs, je crois, d'un... Nous, enfin ensemble, et nous en particulier la famille du Carmel, vous qui êtes les fils et filles du père Marie-Eugène, nous qui sommes ses frères, vous voyez, eh bien, vous voyez, je crois qu'il y a un très grand trésor qui nous est confié pour l'Église tout entière.
Donc on a un temps possible pour des questions.
Vous avez dit que Jésus, vrai homme, n'a rien fait pour mériter, entre guillemets, la vision béatifique. Comment c'est possible, entre guillemets, si on considère que Jésus est à la fois vrai homme, mais aussi vrai Dieu ? Et que du coup, en étant vrai Dieu, il se connaît lui-même, enfin, vous voyez ? C'est pas comme nous, quoi. Enfin, je sais pas si je me fais bien comprendre, parce que je suis pas une théologienne, moi. Mais comment ça s'articule, cette histoire ?
Mais vous savez, non, mais merci de poser la question, parce que c'est un très grand mystère que l'Église a été obligée d'explorer à cause des grandes hérésies des premiers siècles. Moi, je dis, il faudrait faire un monument à Arius, à Nestorius, ces gens-là, parce que finalement, comme Dieu tire le bien du mal, vous voyez, même saint Thomas, qui est un grand optimiste, vous voyez, on pourrait dire que le diable, il fait toujours le bien sans jamais le vouloir. Parce que de tout le mal qu'il fait, à commencer par le péché original, Dieu tire un plus grand bien. Ce qui fait que dans la nuit de Pâques, on va même chanter « Oh, heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur ». Donc, vous voyez, tous ces gens là, qui ont nié Arius, Kinel, ils ont obligé les pères à plonger dans le mystère de la Trinité, vous voyez. Et alors, l'humanité de Jésus, en particulier, donc, toutes ces questions. Alors, bien sûr, c'est vrai que c'est très mystérieux, et souvent, là, on n'est pas assez, enfin, les fidèles ne connaissent pas assez la vérité. Donc, le catéchisme de l'Église catholique a bien insisté. Donc, Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Alors, donc, il y a la divinité avec le Père et l'Esprit Saint. Donc, il y a une seule nature divine des trois personnes. Une connaissance internelle, cette sagesse comme commune aux trois personnes, infiniment lumineuse. Mais alors, le Christ est pleinement homme, donc il a pris dans le sein de la Vierge une humanité complète, corps et âme. Donc il y a une âme humaine, avec une intelligence humaine, avec une volonté humaine. Alors tout ça, ça fait partie de la foi de l'Église, vous voyez. Alors, la question que vous posez à propos du mérite est importante, parce que saint Thomas dira donc que le Christ, il a mérité pour nous, le salut. Et il dit aussi qu'il a mérité pour lui la gloire de sa résurrection. Hein, c'est-à-dire, vous voyez, qu'au fond, il mérite la glorification de son corps personnel et de son corps mystique. Mais l'incarnation, que rappelait bien le texte, j'admire la clarté, la précision théologique du père Marie-Eugène. Il n'y a jamais de flou artistique chez lui. Parce que je travaille sur même des saints italiens, mais les Italiens sont souvent un peu doués pour le flou artistique. Alors, mais il n'y a jamais de... Donc, c'est toujours des expressions extrêmement précises. Vous voyez, le cas de le Christ et nous, attention, la différence, vous voyez, comme le don de soi dans le Christ, le don de soi en nous, c'est pas exactement pareil, parce que lui est une personne divine. Donc, vous voyez, le fait, justement, il rappelle bien, l'humanité du Christ, elle ne préexiste pas à l'incarnation. Donc, vous voyez, l'acteur humain de l'incarnation, c'est pas le Christ, c'est Marie. Vous voyez, dans sa maternité, le oui de Marie, il y a un oui qui précède l'incarnation, c'est pas celui de Jésus, puisque son humanité n'existait pas encore, c'est celui de Marie. Vous voyez, alors c'est en ce sens-là, donc il n'a pas pu, mais parce qu'il la voulait comme Dieu, hein, Saint Jean de la Croix le dit bien, ses romans, les trois personnes, par amour, veulent l'incarnation du Fils, mais son humanité n'agit qu'à partir du moment où elle existe, c'est une créature, vous voyez. Alors, c'est pour ça que saint Thomas d'Aquin, ces fameuses questions 33 et 34 de la Somme, hein, c'est le premier instant de l'incarnation. In primo instanti conceptionis eius. Il revient au premier instant. Et alors, le père Marie-Eugène, la suite d'ailleurs du cardinal de Bérulle, est fasciné, justement, par ce premier instant. Et on y a accès, vous voyez. Et les saints entrent, on a... Le Christ nous appartient tout entier dès le premier instant. Et on peut y accéder. Et c'est la vérité.
Le père Marie-Eugène, docteur... Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu?
Ah oui, 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 oui. Vous savez, maintenant, c'est la déformation professionnelle. Parce que j'étudie les saints depuis plus de 50 ans. Je travaille pour les causes des saints depuis déjà bien des années. Doctorat de Thérèse, ça fait quand même 20 ans. Okay. Alors, donc, l'éminence doctrina. Donc maintenant, on insiste davantage sur l'éminence de la doctrine au moment du doctorat de la petite Thérèse, sur la réception universelle. Alors en fait, ce critère a été mis un peu de côté parce que vous voyez, Saint Jean d'Avila, qui est devenu docteur de l'Église, bon, on peut pas dire qu'il est très connu en Espagne, on peut pas dire que dans l'Église universelle, il est tellement d'impact. Vous voyez. Mais sa doctrine, de fait, est très très belle. Alors j'ai travaillé pour. Alors je peux vous dire, puisqu'on parle des docteurs de l'Église. Il faut le crier sur les toits. Donc j'ai eu le bonheur de travailler pour le doctorat de Saint Grégoire de Narek. Je pense que certains d'entre vous ne savent peut-être même pas que Saint Grégoire de Narek est devenu docteur de l'Église. Tout le monde le sait, non? Pas tout le monde. Voilà, mais je ne vous demande pas de lever la main. Donc, ce saint arménien qui est mort, qui a vécu autour de l'an 1000, il est mort en 1010-1012, qui est une figure merveilleuse. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'a jamais été catholique pendant sa vie. Parce que l'église arménienne était une église séparée de Rome depuis plus de 500 ans. Une église monophysite, entre guillemets. Vous voyez? Et donc, pendant sa vie sur la terre, il appartenait à une église qui n'était pas en communion avec Rome. Alors, ce que je trouve extraordinaire, j'aime beaucoup les premières dans l'histoire de l'église. La tradition est créative, elle est vivante, elle fait du neuf. Il n'y avait jamais eu de femme docteur de l'église. Allez, Paul VI, deux femmes docteurs de l'église. Bon, jusqu'ici, il n'y avait que des saints catholiques. Un saint non catholique, docteur de l'église catholique. Vous voyez. Mais on ne l'a pas dit. Même les médias catholiques n'en ont pas parlé. Même moi, je le crie sur les toits. Vous voyez. C'est ça qui est formidable. Vous voyez, quand on parle la dimension œcuménique, alors de fait, je ne connais pas la langue arménienne, mais il y avait des bonnes traductions. Et c'est le père Kolvenbach, l'ancien général des jésuites, qui était grand spécialiste de l'Arménie, qui est mort récemment. C'est lui qui avait été la cheville ouvrière de ce doctorat, qui avait mis au point la position. Et on voit que c'est le grand Paul VI, le bienheureux Paul VI, qui avait préparé le doctorat. Donc, il avait déjà fait des accords avec ces églises coptes d'Égypte, arméniennes aussi, montrant que même si on n'avait pas employé les mêmes mots, on avait bien la même foi. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Alors ça, pour dire, vous voyez, le monde des docteurs. Alors, ce qui est important maintenant, je crois, donc la réception du père Marie-Eugène, elle s'élargit de plus en plus. Mais je pense qu'alors maintenant, justement, comme c'est l'éminence doctrina, je dirais, il aurait tout pour être déjà... Donc, vous voyez, alors, bien sûr, il se situe dans la grande tradition du Carmel. Mais c'est ça, je crois que je veux voir Dieu, les nouveaux apports, l'approfondissement, justement, ces enseignements sur le don de soi, sur l'appel à la vie mystique, cette christologie, vous voyez, cette connaissance du mystère de Jésus, tout ce qu'il dit dans ses parties sur le nid de l'esprit, et quand d'autres. Puis alors, vous voyez, cette manière aussi, je le disais déjà ce matin, il retrouve la théologie des pères de l'Église, où la vérité dogmatique de la foi, parce que le drame, vous voyez, c'est que ce qui est arrivé après ça, un certain défaut avec la théologie universitaire, alors vous aviez d'un côté, là, le dogme, là, tout ça, tous ces trucs-là, c'est des spéculations d'intellectuels, puis alors la vie, c'est de la piété, plus ou moins sentimentale, etc. Alors, vous voyez, là, on a justement une spiritualité qui est profondément théologique et une théologie qui est profondément spirituelle. Alors ça, il l'articule merveilleusement. Et donc, je pense toute cette manière aussi de théologie. Et alors, tu sais, ça, je dirais, tous ces textes sur le don de soi en lien avec la manière dont c'est présenté, dont c'est proposé aux fidèles, je dis, c'est absolument magnifique. Et je pense que ça peut aider beaucoup de chrétiens, justement, à retrouver la foi, à la renforcer. Vous voyez, justement, dans une connaissance expérimentale de la vérité du mystère. Donc, je crois que, vous voyez, qu'il y a alors moi, je le vois évidemment spécialement d'un point de vue dogmatique, mais je pense que ouvert en même temps à la modernité, interpellé par l'athéisme, ça m'avait toujours frappé aussi. L'athéisme ne nous fait pas peur, il nous appelle. L'athéisme nous appelle. Là, il est très proche de la petite Thérèse. Vous voyez. Donc, enfin, je vous parle comme ça à bâton rompu, mais je pense que si on voulait faire un dossier du doctorat, on y travaille pour Edith Stein maintenant aussi, vous voyez, mais pour dire que mais pensez-y.
Très bien. Un très grand merci à tous les deux pour cette belle soirée. Et peut-être que nous pourrions terminer en chantant tous ensemble ici le Salve Regina et en demandant peut-être au Père Guillaume de nous bénir. Salve Regina.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Que le Seigneur vous garde dans la paix, qu'il vous donne une nuit paisible et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.